Alors merci Seigneur, je vais commencer par une petite prière, parce que toutes les paroles que j'ai entendues là sont vraies. Votre cœur est ouvert, sincère. Alors merci Seigneur pour ce que tu nous as donné, comme ce que tu nous as donné aujourd'hui. On va le garder au cœur le plus longtemps possible. Oui Seigneur, nous t'adorons. Nous te glorifions. Je suis ton fils. Nous sommes tes enfants. Aujourd'hui, je suis là. Et j'ai envie de lire ce texte. Levez vos mains vers lui. Levez vos mains vers lui. Je vais prendre le micro. Et bénissez votre Dieu. Oui, bénissons Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion. Et c'est bien de ça que je vais parler aujourd'hui. L'Esprit Saint nous travaille et il a une direction et il m'a touché. Et aujourd'hui, je vais parler d'Israël, de Jérusalem. Lui qui fit les cieux et la terre, oui, il est vraiment tout pour nous. Amen. Il n'y a pas assez de place. Alors pourquoi j'ai accepté d'aujourd'hui de faire un message ou de faire une prêche, je ne sais pas. En fait, Robert nous a fait un appel et... Il y a maintenant presque 2 ans, j'ai fait un parcours alpha et j'ai compris ce que c'était que l'Église et que j'étais moi-même un temple pour Dieu. Voilà, et vous êtes un temple pour Dieu. Alors, si je suis temple pour Dieu, j'ai quelque chose de moi en Christ, de Christ en moi, et je peux donc témoigner. Je peux donc dire des choses et parler de la parole de Dieu. Le sang du Christ me rachète par rapport à mes fautes. Et donc je suis justifié. Voilà. Alors, j'ai cherché un sujet, puisque... Et le sujet s'est imposé assez vite à mes yeux, à mon cœur. Sommes-nous juifs? Et puis, ça a travaillé, j'ai commencé à travailler là-dessus, et puis non, c'était pas ça qui venait vraiment dans mon cœur. Ce qui est venu dans mon cœur, c'est un rêve que j'ai fait il y a quelque temps, Colette, tu nous avais demandé il y a, je sais pas, 6 mois, 1 an, je sais pas. Moi, le temps pour moi s'étale. Et tu nous avais demandé celui qui ou celle qui ont un témoignage, un rêve, quelque chose à dire, qu'ils le disent. Moi, j'ai gardé ça secret, je le dis aujourd'hui. Voilà. Et c'est un rêve. Donc, je vais d'abord expliquer pourquoi je vais parler d'Israël, pourquoi Israël, pour moi, je suis sensible à ça. Sensible à Israël. Et en fait, ça remonte très vite quand on nous parle de Jésus, quand on nous parle de Jésus mis à la croix, mis à mort. Et là, on se dit, mais Jésus a été tué par des Juifs et par Ponce Pilate. Ponce Pilate qui se lave les mains, qui veut garder la paix civile, et donc qui, voilà, je vous donne Jésus, on le sacrifie. Et donc j'avais eu un ressentiment pour les Juifs, pour voilà. Alors ça c'était jeune enfant, c'est-à-dire que j'étais 6-7 ans quoi, quand je commence à comprendre la parole de Dieu, quand elle nous touche. Alors les textes nous expliquent que Jésus a effectivement été tué par les Juifs, mais c'est un plan de Dieu, et donc les Juifs n'y sont pour rien. Donc je vais lire le bon pasteur de Jean 10, 11 à 18. Alors, c'est moi qui suis le bon berger. Le bon berger se défait de sa vie pour ses moutons. Quand il voit venir le loup, l'employé, celui qui n'est pas berger, et pour qu'il ne... Pardon. Quand il voit le loup, l'employé, celui qui n'est pas berger, et pour qu'il ne s'agit pas de ses propres et qu'il ne s'agit pas de ses propres moutons, s'enfuit en abandonnant ses moutons. Les loups s'en emparent et les dispersent. C'est un employé, il n'a pas de souci pour ses moutons. C'est moi qui suis le bon berger, je connais mes moutons et mes moutons me connaissent. Comme le Père me connaît et comme moi je connais le Père et je me défais de ma vie pour mes moutons. J'ai encore d'autres moutons qui ne sont pas dans cet enclos. Ceux-là aussi, il me faut les amener. Ils entendront ma voix, ils deviendront un seul troupeau, un seul berger. Si le Père m'aime, c'est parce que moi, je me défais de ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève. C'est moi qui m'en défais. C'est là qui est important. C'est lui, c'est Jésus qui se défait de sa vie. Voilà. J'ai le pouvoir de m'en défaire et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Ce dernier verset est important puisqu'il nous explique que Jésus a accepté de mourir et que les Juifs ne sont en rien responsables vraiment de sa mort. C'est un plan. Il faut bien imaginer que si Jésus n'aurait pas été crucifié, je crois que le monde aurait été différent. Les non-juifs auraient certainement eu un problème pour leur rachat, pour être rachetés. C'est difficile à comprendre, mais bon, je le dis avec mes mots. Alors, il y a aussi Marc 14, verset 36. Alors, verset 36. Il disait, « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Voilà, ça c'est vraiment au moment où Jésus est à Gethsémani et est en prière avec son Père, avec notre Père. Et voilà, il y a un enjeu énorme. Et Dieu va souffrir, il le sait. Jésus va souffrir, pardon, il le sait. Mais le plan de Dieu est qu'il faut qu'il passe par là. Voilà. Donc les Juifs ne sont pas responsables de la mort de Jésus. C'est un plan pour nous racheter, pour racheter le monde. Alors voilà, ça c'est ma première, je dirais, rencontre avec Jésus, avec Israël, pardon. Et... il y a plusieurs rencontres dans ma vie avec Israël. Donc ma deuxième expérience, ma deuxième rencontre, elle s'est faite d'une façon assez curieuse. Un ami qui, on était jeunes, on avait 20 ans, 22 ans, m'appelle, Rémi, j'ai besoin de toi, t'es un bon technicien, je vais faire de la radio, c'est la radio libre, on est en 1980-82, je sais plus, dans ces années-là, hein, c'est Mitterrand qui a ouvert les radios libres. Et il me dit, Rémi, viens. Oh, je dis, non, écoute, mais si, tu seras mon technicien, t'as pas à parler. Formidable. Je dis, ok, j'arrive. J'étais très complexé, j'arrivais pas à parler. Donc, me voilà dans une radio qui s'appelle Radio Judaïka. Radio juive. Alors, voilà, pendant 6 mois, nous avons fait ça ensemble. Et ça s'appelait Tremplin Rencontre. Donc, une émission qui se voulait ouverte sur le monde, avec des informations, il y a des danses par-ci, il y a des animations par-là, il y a, bon, on a fait un enregistrement d'un concert qui s'appelait, d'un concert de chrétiens. Et, on a fait cet enregistrement, on s'est débrouillé avec la presse, on avait une carte de presse, hein, donc on pouvait aller un peu partout, on a eu l'accord. Et c'était donc Jane Rousseau. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Jane Rousseau, mais bon, c'était un groupe dans les années 80 qui faisait le tour du monde et qui témoignait de leur foi. Alors c'était aussi, c'était alors, voilà, j'ai eu le culot de passer ça à la radio. Radio juive, et c'était donc un concert chrétien. Bon, une semaine après, j'ai eu des retours là-dessus. Mais ça n'a pas du tout été sanctionné. Il y a eu beaucoup de écoute Rémi, si t'as encore des choses comme ça à faire, faut en parler avant. Voilà. Donc, il n'y a pas eu d'autres occasions, mais c'était donc avec Tremplin Rencontre. Donc, ça a duré 6 mois. 6 mois après, mon ami qui régisse, il me dit, écoute Rémi, on est à trop de contraintes, ça va pas, on nous demande de faire ci, faire là. Bon, c'est une radio juive, on nous demandait de faire d'être sérieux. Et puis, lui, il avait trouvé notre radio, mais moi, je voulais pas partir. J'étais bien. Donc, j'ai pris le créneau horaire qu'on avait. Et c'est devenu Pinking Blue, une émission qui faisait plus rien du tout, qui passait de la musique. J'étais très timide, donc je faisais que des annonces, on va écouter maintenant, ceci, cela. Voilà. Mais ça m'a permis d'être toujours en contact avec les Juifs. J'étais avec eux. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait, moi dans cette radio, j'ai fait un enregistrement de groupe de rock. Ils sont dus à la radio, j'étais le technicien. Après, j'ai eu un interview dans mon émission d'un club d'aéromodélisme. Je me suis lancé là parce qu'il fallait parler. Après, il y a eu une retransmission en direct de l'élection municipale de Pierre Mauroy. C'était l'époque, c'était. Et puis il était en tête, il était premier ministre après. Enfin, c'était vraiment quelqu'un de important. Et j'ai eu. Techniquement, j'avais fait une prouesse parce qu'à l'époque, on n'avait pas de retransmission en direct. J'ai réussi à faire ça. Il y avait 300 mètres de câble qui se baladaient partout. Hein, tu t'imagines, Jacques ? Et je courais avec le câble. On était 6 à courir, à dérouler le câble. Et il y avait le reporter, qui c'était pas moi, heureusement, et qui était là. Et on avait une retransmission en direct. La seule radio libre de Lille qui retransmettait en direct. Super. Voilà. Et j'ai participé à la réalisation aussi du concert de la radio, concert qui a duré presque 2 heures, 3 heures, au théâtre Sébastopol. Donc dans cette radio, j'avais quand même une certaine aura, puisque j'étais le seul technicien, et donc on avait besoin de moi. Donc j'ai rencontré, pas tout le monde, non, mais j'ai rencontré les Juifs. Voilà. Et ça a duré 1 an, donc je suis resté dans cette radio 1 an et demi. La radio s'est arrêtée parce que l'émetteur est tombé en panne et on n'avait pas les fonds pour se relancer. Et je dirais le directeur de cette radio n'a pas eu les fonds ni de la communauté juive qui l'a sanctionné. Je vous parlerai ça plus tard après. Alors ce que j'ai appris dans cette radio, c'est d'avoir parlé dans un micro, de parler à l'autre. Parce que j'étais très timide, donc j'ai su vaincre ma timidité. Donc merci. Voilà. Donc je crois en ce que le Seigneur a un projet sur du long terme, mais on s'en rend pas compte. Alors il y a une chose que j'ai appris aussi, mais que je ne pouvais pas comprendre à l'époque, c'est que les Juifs c'est très particulier. On a une sensation bizarre d'être avec eux. Et je dirais aujourd'hui, les Juifs ont une onction de Dieu. Ils sont protégés. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ils sont à part, mis à part par Dieu. C'est quelque chose que j'ai comme ça sur le cœur. Alors la troisième rencontre avec Israël, c'est un voyage en Israël. Mon frère m'appelle, il a gagné un voyage avec son travail. C'était un bon commercial, il a vendu plusieurs fois des voitures, c'était Renault, voilà. Et puis c'était d'abord ma sœur, après un ami, et puis vient mon tour. Et il me dit, Rémi, c'est Israël, on va à Eilat, petite pointe là-bas, sur la mer Rouge. Formidable, j'ai passé une semaine formidable. Et puis j'ai eu l'occasion de visiter Masada, voilà. Alors j'ai marqué dans mon texte les pierres mortes, parce qu'effectivement j'ai pas rencontré moi les pierres vivantes, parce que moi à l'époque Jésus était un peu loin. Jésus m'a toujours accompagné dans ma vie, mais loin. J'étais pas pratiquant, j'étais un peu loin quand même. Voilà. Mais j'ai vu des choses formidables, le désert du Negev, le Masada, ça impressionne, quelque chose d'important. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai appris là-bas ? Sur le coup, rien, j'ai profité, c'était les vacances, c'était la mer avec les poissons et c'était fantastique. Mais aujourd'hui, je me dis que quand j'ai dit qu'est-ce que j'ai appris d'abord, en fait, je crois que Israël nous dit écoute, écoute-moi, écoute Israël. Voilà. Donc Seigneur, je vais écouter Israël. Et ma quatrième rencontre avec Israël, ben, c'est ici. C'est ici. Mais oui, notre église, elle est rattachée aussi de proche, vraiment proche, avec eux, comment ça s'appelle ? Avec Tony. Voilà, merci, merci. Voilà. Et donc, voilà, on est vraiment très proche. Et donc, cette quatrième rencontre, elle est là, un peu comme quelque chose de filial. Hein ? Alors, voilà, mon rêve. Je vais parler de mon rêve. Donc, c'est à Jérusalem, il y a un temple. C'est le temple de Dieu. Il y a une grande place vide. Il n'y a personne sur cette place. Et il y a du silence. Moi, je suis sur une marche, enfin quelques marches. On arrive sur un perron. Il y a des personnes qui sont là aussi. Et il y a des portes. De nombreuses portes au niveau du perron. C'est un très grand perron, très long. Moi, j'ai ma porte. Je sais où je dois aller. Je rentre. Je me hâte un peu, comme si on était pressé. Et tout le monde est pressé, mais on n'est pas nombreux. Au-dessus de moi, il y a des nuées de petites lumières, on va dire, qui pénètrent par le cimentage. Pas par les pierres, c'est trop dur, on rentre par le ciment. Et passent au travers. Il y a d'autres nuées qui passent aussi par les fenêtres en même temps que moi. On rentre. Une fois rentré dedans, dans le temple, alors là tout change. Le monde change. La perception du monde est transformée. Mon cœur s'ouvre. Je suis en communion avec les autres, tous les autres. À droite et à gauche, il y a des voiles qui nous séparent de chaque porte. Chaque voile a divers endroits des déchirures. On voit des mains qui passent, des têtes, et il y a beaucoup d'amour qui est là. On voit nos voisins, mais aussi on voit des choses étranges, c'est-à-dire qu'il y a des déchirures où on voit des têtes qui sont beaucoup plus loin, qui sont ailleurs, dans des rangs différents. C'est étonnant. Bon, c'est un rêve, hein. Voilà. Et il y a quelque chose d'important aussi dans ce mouvement. Quand on regarde le fond du temple, il y a beaucoup de lumière et on sait que l'éminence de Jésus va arriver. Jésus arrive. Il n'est pas encore là, mais il est là. Alors on le loue, on le chante, c'est formidable, on chante, on danse, voilà, et on est en communion. L'Esprit Saint est là, présent. Il nous relie tous ensemble, comme aujourd'hui. Voilà. Donc je tiens à dire aussi que c'est l'amour qui est là. On sent l'amour, la joie. Alors, mon rêve se termine un peu en ayant une pensée pour ceux qui sont dehors, en dehors du temple. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux ? Voilà, c'est la fin de mon rêve. Donc je vais expliquer très rapidement l'explication de mon rêve. Ce que j'en ai reçu, après je dirais plus tard, on peut en discuter, parce que je pense que des interprétations sont différentes et voilà, chacun son expérience. Donc, la grande place vide. Alors j'ai marqué, on a tous été invités, tous, Dieu a appelé tout le monde, mais peu de monde est venu. Alors j'ai marqué aussi qu'ils ne connaissent pas Dieu dans leur cœur. Et donc Dieu ne peut pas les rencontrer, il n'y a pas de cœur à cœur. Voilà. Après les quelques marches sont là pour nous élever. Il faut nous élever pour pouvoir rentrer dans le temple de Dieu. On se hâte. Ben, le temps approche. Il approche pour chacun de nous, ça peut être le temps, enfin des temps entre guillemets, mais je ne pense pas à ça. Je pense plutôt que c'est le temps de notre vie qui court. Et donc, il faut se hâter. Alors, les portes, elles sont là pour les vivants. C'est un privilège pour les vivants de pouvoir passer par les portes. Et donc, on passe par les portes. la nuée qui passe par le cimentage. J'ai pensé plus à un filtre. On passe par le filtre du cimentage pour être purifié. Le cœur se purifie. On enlève toute impureté. Voilà. Après, il y a la nuée qui passe par la porte en même temps que nous. Eh bien, ça, c'est la prière des vivants. Ils ont le privilège de pouvoir rentrer dans le temple de Dieu par la prière. Ceux qui ne seront pas à Israël peuvent rentrer dans le temple d'Israël par la prière. C'est très important. Donc, dans le temple, il y a la présence de l'Esprit Saint. Il est là partout. Il nous unit, il nous relie les uns aux autres. On partage le trésor qui sort de nos cœurs, spontanément. Les uns et les autres, on ouvre son cœur. C'est naturel. On est unis par un même esprit. Donc là, j'ai pris un texte où Jésus prie pour ses disciples. On est quelque part tous ses disciples. Donc, c'est Jean 17, de 10 à 11. Je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde et moi, je viens à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné pour qu'ils soient comme nous. Lorsque j'étais avec eux, moi je les gardais en ton nom, ce nom que tu m'as donné. Je les ai préservés et chacun d'eux ne s'est perdu, sinon celui qui est voué à la perdition. Oui. Pour que l'Écriture soit accomplie. Oui. Maintenant je viens à toi et je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux la joie, ma joie complète. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a désertés parce qu'ils ne sont pas du monde. Ils ne sont pas du monde comme moi. Et je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Merci Seigneur. Ils ne sont pas du monde comme moi. Je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. C'est ta parole et la vérité. Voilà. J'étais un peu trop loin peut-être. Oui, je me suis embarqué. Bon. Le texte nous indique en fait qu'on est unis les uns aux autres et que nous faisons qu'un avec Dieu. Le Saint-Esprit, Jésus, le Père et nous. C'est une demande de Jésus. Donc, elle est réelle quand aujourd'hui il y avait une unité dans la prière. Merci Seigneur. Donc, maintenant je vais parler des voiles qui se séparent et les déchirures. Donc, j'ai pensé aux voiles, donc ça peut être la séparation des confessions. Mais ça peut être les nations aussi, pourquoi pas. Donc chacun est séparé. On peut se sentir, quand on bouge le tissu, on sent que derrière il y a du monde. Formidable. Dans les déchirures, on voit les gens, et ça c'est formidable. Les déchirures ont été voulues par le Saint-Esprit. On peut communiquer avec eux, avec les gens qui sont à côté. Ces déchirures sont faites par nous quand on va voir d'autres confessions, quand on va bénir ou prier avec d'autres qui ne sont pas de l'Église. Voilà. Mais Dieu garde un voile toujours pour séparer les Églises ou les confessions ou les nations. C'est son plan. Et on a conscience dans cette Église, dans ce temple, que quand Dieu viendra, quand Jésus sera là, les voiles vont s'enlever. Et nous serons tous unis, une église unique, pour glorifier Dieu. Voilà. Alors, je vais maintenant parler de Romains. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Parce qu'on va parler d'Israël. Alors, Romains 11, 7 à 8. Quoi donc ? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu. Ce sont ceux qui ont été choisis qui qui l'ont obtenu. Les autres sont devenus obtus. Donc en fait, on parle d'Israël, juste après la mort de Jésus. Et Israël recherchait un roi puissant et vainqueur. Ils ont eu Jésus qui s'est laissé crucifier. Voilà, donc il y a ceux qui ont été choisis, je pense aux disciples, et tous ceux qui ont dit oui à Jésus. Et les autres sont devenus obtus. Ainsi qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit de torpeur. Ça, c'est pour Israël. Des yeux pour ne rien voir. Des oreilles pour ne rien entendre, jusqu'à ce jour. Et je pense que dans mon rêve, le temple, avec ses voiles, c'est aussi quelque part des voiles qui sont dressées pour ne rien voir, pour que l'arbre grandisse. Je vais en parler. Donc, je parle de Jésus aussi. Il faut bien comprendre que Jésus... Je vais revenir à ma première question. Est-ce que nous sommes juifs ou devons-nous être juifs ? Jésus est juif. Il est né dans une famille juive. Tout ce qu'il a fait était dans un contexte juif. Et donc... On pourrait se poser la question, est-ce que pour suivre Jésus, est-ce qu'il faut être juif? En fait, les textes le disent, il n'en est rien. Donc on va parler de ça. Donc, Éphésiens, le mystère du Christ, 3, 4 à 6. Éphésiens 3, 4 à 6. Hein. En lisant cela, donc c'est les mystères du Christ, c'est Paul qui donc écrit aux Éphésiens. En lisant cela, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il l'a révélé maintenant par l'Esprit et par ses saints apôtres et prophètes, à savoir que les non-juifs, c'est-à-dire nous, ont un même héritage, sont un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par la bonne nouvelle. Voilà. On peut prendre aussi Romains, juifs et non-juifs dans un projet de Dieu. Alors Romains 11:11. Alors les juifs et non-juifs dans le projet de Dieu. Je demande donc, ont-ils trébuché pour tomber tout à fait ? Pardon, je demande donc, ont-ils trébuché pour tomber tout à fait ? Point d'interrogation. Jamais de la vie. Mais du fait de leur faute, le salut a été donné aux non-juifs afin de provoquer leur jalousie. Ça, c'est important. C'est le projet de Dieu. Voilà. Jésus a été crucifié pour nous permettre à nous d'être sauvés. Ensuite, 11, toujours Romains 11, 16 à 18. Or, si les prémices sont saintes, toute la pâte l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, l'olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, si tu as eu part à la racine, à la sève de l'olivier, ne fais pas le fier aux dépens des branches. Si tu fais le fier, n'oublie pas que c'est toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Alors ça, c'est important. Ouais, ça, c'est vraiment important. Et c'est là que je pense que dans le temple de mon rêve, il y a une place pour Israël. Je ne le vois pas, mais je pense qu'il y a une place pour Israël. Oui. Des racines. Si on ne respecte pas nos racines, s'ils ne respectent pas l'Ancien Testament et le peuple d'Israël, alors nous sommes coupés de nos racines. Et ça, je crois qu'il est très important qu'on prenne conscience que nous devons avoir un amour pour Israël. Pour Israël, juif. Voilà. Parce qu'il y a des juifs chrétiens il y a encore des juifs quoi, voilà, avec, et ceux-là, il faut les bénir. Dieu a un projet pour eux. Ils font partie des racines. Voilà. Romains, le salut d'Israël. Alors, 11, 25 à 29. Car je ne veux pas, mes frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne croyez pas trop avisé. Israël est devenu obtus, donc fermé à la parole, est devenu en partie, jusqu'à ce que la totalité des non-juifs soit entrée. Et c'est ainsi que tout Israël sera sauvé, comme il est écrit. Donc voilà, je pense qu'effectivement Israël, voilà, il s'est écrit. Israël sera sauvé. Le libérateur viendra de Sion. Il détournera de Jacob les impiétés. Et telle sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. Du point de vue de la bonne nouvelle, certes, ils sont ennemis. Eh oui, à cause de vous, nous. Mais du point de vue du choix de Dieu, eh oui, ils sont aimés à cause de leur Père. Ah ça, ouais, c'est vraiment, Dieu est fidèle dans sa parole. C'est des promesses qu'il a faites dans l'Ancien Testament. Et il tient parole. Car les dons de la grâce et l'appel de Dieu sont irrévocables. Les dons de la grâce sont irrévocables. Amen. Ah, ça, c'est important. Donc, mon rêve se termine là. Il y a encore ces gens qui sont dehors, mais ça, je crois que. Je pense à Vision 50. Peut-être que c'est notre. Peut-être que voilà. Hein, c'est aussi une démarche pour aller vers eux. Donc, il y a aussi, je voudrais parler d'un témoignage que m'a fait ma mère hier. Elle a fait des remontées depuis 30 ans. Enfin, ça fait pas 30 ans qu'elle le fait ça, mais elle l'a fait une fois. Elle faisait partie donc d'un groupe de remontées de Jérusalem. Ça fait 30 ans que ça dure. Et en fait, cette année, toutes les confessions chrétiennes en Israël ont été visitées. Les ponts sont établis. C'est-à-dire que les contacts entre chaque communauté, chaque confession, il y a des liens officiels ou non officieux, quoi, officiels, enfin, voilà, des choses sont en place et l'Esprit Saint travaille. Voilà. Et donc, ça me fait penser que il y a une prophétie d'Isaïe 62, 6 à 7. Alors, Isaïe. Alors, Ésaïe 62, 6 à 7.
Sur tes murs de défense, Jérusalem, déplacer les gardiens, ils ne devront jamais se taire, ni le jour, ni la nuit. Vous, les veilleurs, qui obligez le Seigneur à se souvenir de Jérusalem, ne vous reposez pas, ne lui laissez pas de repos, avant qu'il ait rétabli Jérusalem, avant qu'elle devienne un sujet de louange sur toute la terre.
Amen, amen. Et là, je pense que c'est une prophétie qui, en ce moment, est en train de se réaliser. Donc, j'ai lu ce livre-là. Donc, ça correspond tout à fait à ça. Hein. Donc ça fait quelques années quand même. Hein. Je crois que c'est de 2005, il me semble. Donc, ça fait plusieurs années que, dans le monde entier, on prie pour Israël. Il n'est pas nécessaire de rallier ce... Voilà, il n'est pas nécessaire d'être avec eux, quoi. Simplement la prière suffit pour être un rempart, d'être sur le rempart et de prier pour Israël. Voilà, donc, voilà, Israël, merci. Merci Israël pour ce que tu as fait pour nous. Jérémie, c'est le rassemblement universel à Jérusalem. Voilà. Donc Jérémie 3 à 14, 18. Alors, Jérémie 3. Il y a beaucoup écrit, Jérémie. Jérémie 3. 14 à 18, oui. Donc c'est le rassemblement universel à Jérusalem. Revenez, fils rebelles, déclaration du Seigneur, car c'est moi qui suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'un clan, et je vous ramènerai à Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils vous feront paître avec intelligence et bon sens. Lorsque vous vous multiplierez et que vous deviendrez féconds dans le pays, en ces jours-là, déclaration du Seigneur, on ne parlera plus du coffre de l'alliance du Seigneur, il ne deviendra plus au cœur, on ne s'en souviendra plus. On ne remarquera plus son absence et on n'en fera pas d'autre. En ce temps-là, on appellera Jérusalem, trône du Seigneur, toutes les nations se dirigeront vers elle, au nom du Seigneur, vers Jérusalem, et elles ne suivront plus l'obstination de leur cœur mauvais. Donc je reviens à mon temple dans mon rêve. Ça peut être aussi cet instant-là où toutes les nations se rassembleront à Jérusalem pour glorifier Dieu. Voilà. Ben, j'ai terminé, je vais faire une prière de fin. Voilà, Seigneur, je te remercie, je te bénis, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce pour les bienfaits que tu nous donnes. Oui, Seigneur. Et nous levons tes mains, nos mains vers toi. Nous bénissons notre Dieu. Oui. Que le Seigneur soit béni de Sion. Oui, Seigneur. Tu as commencé à Jérusalem, tu reviens à Jérusalem. Oui, Seigneur, garde-nous. Bénis tes enfants. Amen.